Les chemins de traverse avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément Fèvre. Le safran de la safranière à votre assiette. Lorsque nous nous sommes quittés la dernière fois, Odette Anger, une des personnes ayant relancé le safran en Quercy avec son mari, nous contait une certaine histoire du safran en Quercy. Nous étions au 15e siècle, au marché de Bruniquel dans le Tarn. Suite de cette histoire.
Et à côté de Cahors, à Sessac, il y avait les seigneurs de Sessac. Leur revenu était en safran et ils avaient les marchands allemands, dont nous avons retrouvé le nom de l'un qui s'appelait Salicoffre, qui venait acheter le safran à Sessac, à côté de Cahors. Et le même Salicoffre venait acheter du safran à Saint-Antonin-Nobleval, au bord de l'Aveyron. Et au bord de l'Aveyron, il y avait un endroit qui s'appelait Gabarot, et où on chargeait le safran sur les bateaux pour l'envoyer, là où il faisait le commerce, les bateaux ramassaient le safran à cet endroit-là.
Il y avait un sacré commerce à l'époque sur le safran.
Il faut dire que c'était le revenu des seigneurs et des abbayes, comme les moulins. Ça, c'était leur revenu. Parce que vous voyez, à la Ramière, par exemple, il y a l'abbaye de la Ramière.
Oui.
Eh bien, l'abbaye de la Ramière avait une safranière de 2 hectares. Et les prêtres, les Augustins qui ont fait ça, c'est en 1200. Vous voyez?
La recette de l'encre d'or sans or utilise la poudre d'étain ou de laiton additionnée de gomme arabique, recouverte après polissage d'une couche de safran préparée au blanc d'œuf. Dans les enluminures des manuscrits, cette encre d'or figure la lumière céleste. Elle éclaire les auréoles des saints. Ceci explique en grande partie le carré de safran dans toute abbaye. Ils en faisaient quoi de ce safran à l'époque alors ?
Ben, ils le vendaient.
Oui, mais après en utilisation une fois vendu.
Eh ben, plante tinctoriale, c'est surtout ça, c'est la plante de teinture.
Donc à l'époque, c'était plus pour la teinture, côté culinaire était moindre.
La plante tinctoriale, oui. C'est devenu épice, certainement. On parle qu'ils mangeaient souvent de la viande plus ou moins faisandée ou avariée, pour en enlever le goût, je ne sais pas. Mais en définitive, c'était une plante tinctoriale qui a été utilisée. Et pour les soieries de Lyon, il y avait la route de la soie. Et là, on a la preuve qu'à César, le grand marchand de Toulouse, lui faisait le commerce et du pastel et du safran. Et le safran, donc, il l'envoyait à Lyon pour teindre la soie. Après, c'est l'indigo qui a pris la suite, etc. Ça a été fini.
Oui, puis après, quand tu as eu les colorants artificiels,
on est parti sur la chimie.
Et le côté culinaire, alors, il apparaît vers quelle époque? Oui, il y a eu les deux en parallèle, en fin de compte, mais axée sur la teinture.
Ah oui, c'est Apicius, le Romain qui s'en servait.
Selon le gastronome romain Apicius, le sel aux épices est bon pour la digestion, pour faire aller le ventre, et empêche toutes les maladies, la peste et tous les refroidissements. La formule tirée du codex de l'époque donne comme ingrédient du sel ordinaire grillé, du sel d'ammoniac grillé, des graines de persil, de l'origan, du poivre blanc, du gingembre, de la joanne, du thym, de la graine de roquette, du poivre noir, du safran, de l'hysope de crête, de la feuille de nard, du persil et de l'aneth.
Les Romains se servaient beaucoup de safran, hein? C'était courant, donc c'est deux siècles avant Jésus-Christ, on parlait déjà du safran. Et ils se servaient des fleurs de safran pour mettre dans les couches des mariés. On le voulait odoriférant, mais on le voulait aussi aphrodisiaque. Alors, on le dit. On le dit.
Passionnante et intarissable sur le safran, Odette Anger. Les différentes vertus du safran, nous en reparlerons dans cette série d'émissions. À l'Arnagol, chez Odette et Claudine, nous y reviendrons également. Pour l'heure, je vous propose de nous rendre chez Christian Agrèche, avec qui nous allons commencer par aborder le côté botanique de Crocus sativus.
Le safran, dans la famille des iris, en fait, c'est un iridacé, comme le glaïeul et comme les 70 variétés de crocus. Alors parmi ces crocus, il y en a certains qui s'appellent safran aussi, le safran bâtard, le crocus nudiflorus notamment, qui fleurit lui dans les lieux humides au bord des rivières et que l'on confond souvent avec le colchique. Et le colchique lui-même peut être pris pour du safran. Alors seule différence, c'est qu'en fait, il n'a pas le fameux pistil qui se divise en trois stigmates, l'épice que l'on recueille sur le crocus sativus. Alors le nom du safran, c'est le crocus sativus, c'est-à-dire le crocus cultivé pour la production du safran. Et en réalité, c'est un hybride, ce crocus sativus, puisqu'il ne se reproduit pas en faisant des graines. C'est un hybride depuis certainement l'Antiquité, depuis très longtemps, et on ne sait pas comment cette plante s'est formée, mais on suppose qu'on connaît à peu près les ancêtres, et notamment un qui s'appelle le crocus cartuanus. Depuis très longtemps, en fait, on cultive cette plante en la multipliant uniquement par la main de l'homme, puisqu'il n'y a pas de graines. Alors ce procédé de multiplication n'est pas sans poser certains problèmes, puisque en fait le bulbe, s'il attrape des champignons, une maladie quelconque ou des virus, ça sera reconduit sur toute la lignée, puisque la multiplication se passe par cailleux, par multiplication et par grossissement de cailleux sur le bulbe mère qui sèche et qui nourrit sa descendance.
Les cailleux, ce sont...
Les cailleux, c'est comme pour l'ail ou comme pour l'oignon, ce sont des excroissances qui se forment et qui forment les nouveaux bulbes, en fait. Hein. Et en fait, on appelle cela des bulbes, mais ce n'est pas des bulbes, on devrait dire, puisque c'est un iridacé, des cormus, en fait. Hein. Lorsqu'on voit un iris, c'est un cormus aussi, qui est allongé, et pour le glaïeul, c'est un cormus droit, comme pour le crocus.
Christian Agrège, tout comme Madame Angers et son mari, est un de ceux qui a aidé à relancer le safran en Quercy. Il est le président du Conservatoire botanique du safran de souche Quercy. Il est également passionné par le safran. Il aime parler de sa passion, partager ses expériences et ses connaissances. C'est dans sa maison à Gréalou, sur le cause du même nom, plateau séparant la vallée du Célé et du Lot, que Christian Agrège m'a reçu par un bel après-midi ensoleillé du mois de juin 2010. Cet homme grand, grisonnant et mince est venu avec simplicité à ma rencontre sur le chemin menant à son domicile, une ancienne ferme familiale du XIVe siècle, une merveille du genre. Le cadre est idyllique, le petit corps de ferme est perdu sur le cosse entre les murets de pierre, les buis, les genévriers et les chênes. La safranière, elle, se trouve à côté de la maison, tout comme autrefois, les gens avaient leur petit carré de safran, tout à proximité. Quelle est la particularité donc du crocus, mis à part le fait qu'il faut le reproduire par clonage? Au niveau de son cycle de vie, de floraison, tout ça, il y a des particularités?
Ah oui, la particularité du crocus sativus, c'est qu'il a une végétation inversée. C'est vrai que la plupart des personnes qui approchent le safran au départ, ils pensent que, comme toutes les fleurs, elles vont arriver au printemps, comme la majorité des fleurs. Mais le crocus sativus fleurit en automne et ses feuilles poussent tout au long de l'hiver pour sécher au mois de mai. Et ensuite, s'ensuit une période de quelques mois jusqu'au mois de septembre, où il y a une dormance estivale, où la plante n'a plus de végétation et dort sous 20 cm de terre tout l'été, à la chaleur du soleil, en fait. Hein, ce qui est important pour sa croissance aussi et sa différenciation florale et la création de ses futures fleurs, puisqu'il faut une température chaude en été pour pouvoir faire des fleurs à l'automne.
Il faut des conditions particulières de climat. Bon, vous avez parlé qu'il fait de la chaleur, mais au niveau de la terre, est-ce que ça accepte n'importe quelle terre?
Il n'est pas très exigeant au niveau du terroir, si ce n'est qu'il ne faut pas des terrains trop humides et des terrains qui soient qui conservent l'eau trop longtemps, parce qu'il craint l'eau, ce qui peut lui amener certaines moisissures et champignons qui peuvent détruire pendant la dormance le bulbe. Il faut des étés très secs, il faut des printemps pluvieux, des automnes pluvieux, et aussi, pluvieux, il faut de l'eau. Et ensuite, en hiver, il faut aussi de l'eau, puisqu'il pousse en hiver, et surtout en janvier-février, au moment où les bulbes vont grossir. Et là, il faut de l'eau. Mais en principe, on a de l'eau. Alors, on peut dire que le Quercy, par exemple, est la région idéale pour la culture du safran, puisque nous avons, au niveau de l'eau, ce qu'il lui faut exactement, puisque nous avons des automnes et des printemps pluvieux. Et puis, nous avons des étés très chauds et secs, ce qui est tout à fait favorable à cette culture. Et c'est d'ailleurs pour cela que la culture s'est développée pendant 4 siècles, à peu près de 1400 à la Révolution, et qu'elle a été très importante puisqu'on exportait vers les pays du nord de l'Europe, vers Lyon, vers l'Angleterre. Et on a beaucoup exporté du safran. Ça s'exportait par tonne. Il faut savoir que le safran ne produit que 10 kHa, donc une tonne de safran, ça fait quand même quelques hectares.
C'est avant tout sa qualité d'épice qui a assuré au safran sa réputation. Il est la principale épice autochtone du monde occidental, celle qu'on cultivait chez nous, qu'il n'était pas nécessaire d'aller chercher au-delà des mers, au-delà des déserts, dans ces lointaines contrées aux parfums d'Orient qu'on appelait commodément les Indes.
Vous êtes venu comment au safran ?
Alors moi je suis venu au safran, disons que... J'ai toujours connu le safran, puisque mon père a toujours ramassé du safran dans le jardin. Mes parents en ramassaient régulièrement, et j'ai consommé dans mon enfance des plats au safran, régulièrement aussi. Donc j'ai toujours vu que l'on ramassait du safran. Et il faut dire que j'ai fait l'école hôtelière à Souillac, et je suis devenu professeur de cuisine donc, après. Et donc, à l'école hôtelière, déjà... J'ai entendu parler, effectivement, un professeur de cuisine qui, à l'époque, m'avait dit « Bon, notre région produisait du safran ». Donc j'ai fait le rapprochement entre le safran qui était chez mes parents et cette fameuse histoire du safran qui m'intéressait derrière l'oreille. Et ensuite, j'ai travaillé énormément sur la Côte d'Azur et aussi donc sur la côte du Languedoc-Roussillon. Et là, dans les restaurants où j'ai travaillé, il y avait un coffre-fort où était le safran. Pour la bouillabaisse, la lotte, etc., pour la soupe de poisson. Mmh. Et il y avait un représentant qui passait et qui apportait voilà. Donc il y avait un coffre avec le safran qui était conservé. Et puis c'est le chef qui avait la clé, quoi.
C'est
donc,
dire la valeur, quand même.
C'est dire la valeur. Ben oui, c'est dire la valeur. C'était pas rien, puisque lorsqu'on l'achetait pour l'année, il y en avait quand même pas mal à l'intérieur. Hein. Donc, lorsque je suis revenu dans la région, il est bien évident que j'ai... retrouver les bulbes et que j'ai eu envie de relancer le safran. Donc j'ai recommencé à 85 la culture, la multiplication, et en 97, avec le docteur Fleury, donc, qui était président de l'ASPEC, j'étais vice-président de cette association de sauvegarde du patrimoine des environs de Cajar, j'ai créé une commission de travail, les safraniers du Quercy, qui a redéployé l'idée de la relance du safran et de la culture. On a fait des conférences, on a travaillé, on a fait une exposition, on a commencé à fédérer les producteurs, et c'est parti de cette initiative-là, la relance du safran à Cajar. Voilà.
Et depuis, ça ne vous a pas lâché
là ? Depuis, non, parce qu'en fait, moi, en ce qui me concerne, je n'avais pas décidé de m'installer exploitant agricole. Et il est vrai qu'en 2000, en reprenant les terrains de mon père sur la ferme familiale, donc le safran m'a installé en tant qu'agriculteur, parce que je ne l'ai pas choisi. En tant qu'amateur, j'avais multiplié les bulbes et je suis devenu, cotisant solidaire, exploitant agricole, en termes d'activité secondaire.
C'est le safran qui vous a choisi, quoi.
Voilà, c'est ça. Plus... En gros, c'est ce qui s'est passé, oui.
Nous laissons également opérer sur vous la magie du safran et je vous invite à nous retrouver lors de notre prochain rendez-vous sur cette même antenne. Les différentes lectures étaient extraites du fascicule « Le safran du Quercy » de Christian Agrèche aux éditions Quercy Recherche et du petit livre « Le safran » de Pierre Aucante aux éditions Actes Sud. C'était « Les chemins de traverse » avec Pascal Laurière, une émission Maurice Clément-Fèvre.